Monsieur le Président de l'Université Paris-Sorbonne, Monsieur le Délégué Régional du CNRS, cher Pierre, chère Brigitte, je suis très heureux d'ouvrir cette rencontre amicale pour fêter donc la mise à disposition des archives de Raymond Boudon et du GEMAS au sein de l'EHESS. Alors malheureusement, Raymond Boudon ne pourra pas être présent pour des raisons que vous devinez impératives. Et bien sûr, nous lui rendrons compte de cette rencontre, et je pense qu'il sera très heureux du bon déroulement de cette rencontre amicale. Alors, c'est le déménagement en fait, du 54 boulevard Raspail qui a été l'occasion du lancement de cette opération. Parce qu'en faisant l'inventaire de nos documents, nous nous sommes rendus compte que nous avions stocké l'ensemble de la correspondance de Raymond Boudon, ses projets d'articles et de colloques, bref, tout un pan de l'histoire de la sociologie française et internationale, puisque Raymond Boudon a échangé tout au long de sa carrière avec un très grand nombre de collègues de grande renommée. Et donc, évidemment, il nous est apparu que ce matériel devait être classé, organisé et mis à la disposition du public. C'était le travail d'un service d'archives, et donc nous nous sommes enquis de celui qui pourrait mener cette tâche à bien. Alors après quelques démarches vers Sciences Po, nous nous sommes rendus à l'évidence. Nous avions à proximité immédiate quelqu'un de compétent et d'expérimenté, et qui en plus est une amie. Je veux parler de Brigitte Mazon, qui a immédiatement accueilli cette idée avec enthousiasme et qui l'a menée à bien avec la collaboration de Goulven Lebrec avec un grand professionnalisme. Elle dira tout à l'heure comment elle a procédé. Mais en tous les cas, je la remercie dès maintenant. Je remercie également Alexandra Fresneau du GEMAS, qui a organisé les choses de notre côté, et Annie Devinant, qui avait de son côté, à Paris 4, un certain nombre de documents de Raymond Boudon. Je remercie également François Hartog, président de l'EHESS, qui, je pense, ne va pas tarder à arriver, qui a rendu cette opération possible, alors que le GEMAS n'est pas un laboratoire de l'EHESS. Donc je l'en remercie. Voilà, je ne veux pas être plus long. Je passe la parole à M. Barthélémy Jobert, le président de l'Université Paris 4, qui est l'université de rattachement du GEMAS, et dont Raymond Boudon est professeur honoraire. Et puis à Alain Mangeol, délégué régional du CNRS, qui nous font tous les deux l'honneur et le plaisir d'être présents. Et puis, s'il arrive à temps, François Hartog dira quelques mots. Et enfin, Brigitte Mazon, qui est en fait la cheville ouvrière de cette opération, nous expliquera comment elle a procédé. Et pour terminer, Pierre de Melnard lira quelques mots que Raymond Boudon souhaitait dire à cette occasion. Et nous avons également reçu un message amical d'Alain Touraine que Gianluca Manzo vous lira. Voilà. Monsieur le Président, je vous passe la parole. Merci beaucoup.
Merci. Capacité de la Sorbonne. Enfin, c'est un de nos plus anciens professeurs, émérite maintenant, qui a fondé la sociologie en Sorbonne, donc il a implanté chez nous, qui a créé cette unité, le groupe d'études des méthodes d'analyse sociologique de la Sorbonne, qui continue à prospérer. Bon, et nous sommes incapables de conserver ces archives. Et nous avons donc recours à une institution sœur, voisine, pour accueillir ces archives et d'une certaine manière les mettre en valeur. Mais en même temps, cela montre d'abord l'intérêt de la Sorbonne pour la sociologie. C'est-à-dire que, après tout, s'il y a des archives, c'est que nous les avons conservées. Et pas simplement celles de Raymond Boudon, mais aussi celles du GEMAS, qui montrent bien, d'une certaine manière, que la sociologie, et Pierre en est un vivant exemple, est bien implantée chez nous, pas toute la sociologie, une certaine sociologie, et une sociologie qui dialogue aussi avec les humanités, ce qui n'est peut-être pas inintéressant. Et c'est peut-être tout ceci qu'il y a de contenu dans ces archives, qui vont donc maintenant être accessibles, disponibles pour une histoire de la sociologie, ou pour simplement la prise en compte de ce qu'a été l'œuvre et l'activité de Raymond Boudon et de ses successeurs d'ailleurs dans une vue assez étendue de la sociologie, au-delà des groupes, des chapelles, des genres, des personnes. Donc je suis très heureux que cette opération ait pu avoir lieu. Si j'ai tenu à être ici, c'est pour manifester l'intérêt que Paris 4, Paris-Sorbonne, aujourd'hui a encore pour la sociologie et pour les sociologues. On n'a pas l'habitude d'identifier l'université que j'ai l'honneur de présider à la sociologie. Et pourtant, il y a une sociologie qui existe, qui est très vivante, qui est née avec Raymond Boudon, qui se poursuit encore aujourd'hui, et qui a toute notre attention et tout notre soutien, car elle est de très grande valeur. Et Pierre a su me rappeler tout à l'heure que ce soutien devait être efficace, permanent, actif, pratique, pragmatique. Bon, ben, j'espère qu'il pourra continuer à l'être.
Nous sommes un peu marxistes, tu sais.
Non, c'est possible. Hein. Bon, voilà. Non, vraiment, je suis très heureux que cette opération puisse avoir lieu parce qu'elle elle dépasse justement un peu les institutions et elle croise les perspectives, les gens. C'est toujours très bien. Voilà.
Merci, Monsieur le Président. Nous sommes très sensibles à ce soutien de l'Université Paris 4. Je passe la parole à Monsieur Boujol.
Merci, Monsieur le Directeur. Je suis moi-même tout à fait ravi d'être présent ce soir auprès de vous pour assister à cette ouverture des archives d'un grand sociologue. Le CNRS, évidemment, est sensible à la question de la transmission des connaissances dans tous ses aspects, y compris quand il s'agit de perdurer dans le temps. Il s'intéresse à des questions terre-à-terre, à des questions de lieu, à des questions d'espace. L'importance des lieux, l'hébergement de la science, un vrai sujet. Chacun le revendique, d'ailleurs, à la mesure de ses possibilités. On sait quelles sont nos difficultés pour trouver des locaux, pour les faire perdurer. On sait quel attachement on a à ces locaux. Je ne refais pas l'histoire du 54. Ces questions de locaux sont vraiment très prégnantes, toujours en arrière-plan, mais toujours extrêmement présentes. Nous sommes ici au GEMAS, qui est une unité mixte de l'Université Paris 4, que dis-je, faisons plus court, de la Sorbonne et du CNRS. Mais comment cette unité a trouvé un logement dans un immeuble qui est celui qui abrite des activités scientifiques et des activités d'enseignement grâce à l'HESS, qui devait déménager du 54 et dont la ténacité du président qui vient de la quitter a fait que, effectivement, cet immeuble a pu nous accueillir. Et il n'accueille pas que le HESS, cet immeuble, il accueille aussi la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Et donc, le GEMA s'est hébergé par la Fondation des Sciences de l'Homme, par le CNRS et par l'Université de la Sorbonne. Et tout ceci grâce à l'EHESS. Donc vraiment, on est dans un œcuménisme parfait et dans un partenariat très affirmé pour ce qui concerne ce GEMAS. Et ça donne une dimension encore plus passionnante à l'ouverture de ces archives. Les archives. La question à qui appartiennent les archives. Alors les archives, souvent, elles sont ouvertes, mais elles sont parfois léguées. Et puis, autour de ces archives se construit une bibliothèque avec l'argent des différentes tutelles. Et à la délégation du CNRS, on essaye d'imaginer des systèmes pour savoir à qui sont les archives. Et en fait, on conclut, les archives sont à l'État et les tutelles, les établissements publics en sont les gardiens. Donc nous avons comme ça assuré la pérennité des archives en disant que les archives appartiennent à l'État. Et c'est une convention qui va être dans ce sens que j'ai signée avec une autre unité mixte. Et que je suis prêt à signer pour tout problème qui pourrait se poser pour les archives Raymond Boudon, si un jour il venait à se poser. Voilà. Il y a les questions de science. Alors, bon, moi, je suis le délégué régional du CNRS. J'ai une circonscription extrêmement pluridisciplinaire. Il y a 62% des laboratoires qui sont dans les sciences humaines et sociales. Mais les sciences humaines et sociales, c'est pluridisciplinaire par nature. Donc, je suppose que M. Raymond Boudon m'aurait pardonné mon inculture. C'est celle des généralistes. Je suis un ingénieur agronome généraliste, mais je me suis renseigné à propos de Raymond Boudon et je me suis découvert illico, adepte de l'individualisme méthodologique. Et ce, depuis des années. N'ai-je pas passé mon jeune temps d'agronome à étudier sous tous les angles les motifs de la décision de l'agriculteur, décision technique ou économique, ou les deux le plus souvent, et les conséquences de ces décisions, aussi bien sur l'environnement physique et sur les marchés des produits agricoles. Alors, bien sûr, vous allez me dire, il faut étudier encore, parce que vous avez entendu parler de la pollution des nitrates en Bretagne, des algues vertes sur les plages bretonnes. Ah, tout ça, c'est le résultat de décisions individuelles dont je ne vous retrace pas les conséquences dans le détail. aussi suis-je très honoré d'avoir fait sa connaissance, fût-ce si fugitivement et par la tangente, à cette occasion de l'ouverture de ses archives aux EMAS. Et c'est une excellente d'ailleurs que cette cérémonie. Elle donne l'occasion de s'arrêter un instant sur la route parcourue. Elle donne aux anciens la possibilité de montrer le chemin d'où ils viennent aux plus jeunes, afin que ceux-ci, saisissant ainsi le témoin que leurs aînés leur passent, imaginent plus facilement, avec plus de détermination, le chemin qu'ils suivront pour l'avenir. Donc merci encore à M. Olivier Galland, le directeur du GEMAS, pour cette petite cérémonie et l'occasion qui nous rassemble aujourd'hui.
Merci beaucoup, M. Mongeol, pour ce beau compliment. Brigitte, tu prends la parole?
Merci Olivier. Je crois que François Artoc a retenu. Il nous a dit, enfin, il m'avait fait dire ce matin que la journée était très bousculée et qu'il espérait venir. Résultat, je prends son temps de parole, mais je ne le représente pas vraiment, enfin, tout en étant l'archiviste de l'École des hautes études. Alors, moi, je vais vous parler en archiviste à propos des archives de Raymond Boudon. Chaque collecte de fonds d'archives de chercheurs est une rencontre. Dont le chemin à Monsieur Artoc, je disais que je prenais votre temps de parole, mais que je ne vous représentais pas vraiment. Mais donc, chaque collecte. C'est donc une rencontre, un fonds d'archives, dont le chemin est rarement balisé. Et celui qui nous a conduit vers Raymond Boudon et le GEMAS est assez singulier. Rien ne prédestinait ce fonds, institutionnellement, à être pris en charge par le service des archives de l'École des hautes études en sciences sociales, si ce ne fut un déménagement commun, en partance du 54 boulevard Raspail et l'arrivée d'une quarantaine de cartons du GEMAS dans une cave du France attribuée à l'EHESS. Une fois atterri là, en décembre 2010, par une quasi-erreur d'aiguillage ou par un défaut de destination, destination autre, ces archives ne pouvaient laisser indifférent l'établissement d'accueil et son service d'archives en pleine construction d'un projet fédérateur de centre d'archives de la recherche en sciences humaines et sociales sur le futur campus Condorcet. Lorsque Raymond Boudon, informé de ce projet par Olivier Galland, exprima le souhait de faire don de ses archives à l'institution qui en était le porteur de ce projet, le président de l'HESS, François Veil, lui fit un accueil des plus chaleureux. Quant à l'équipe des archivistes de l'école, qui émergeait à peine de sa plus grande collecte d'archives de la recherche en sciences sociales grâce au déménagement du 54 boulevard Raspail et ses quelques 2000 mètres d'archives, la prise en charge de ce fonds, aux côtés de bien d'autres, lui semblait tout à fait naturelle, à défaut d'être facile, matériellement parlant. Quoi de plus naturel, donc, pour nous archivistes, et pour les chercheurs futurs que nous imaginons toujours à l'horizon proche ou lointain de notre travail, que les archives de Raymond Boudon et du groupe de recherche qu'il a fondé côtoient celles du Centre de sociologie européenne de Pierre Bourdieu, en provenance du même étage de la Maison des sciences de l'homme, ou celles du Centre d'Alain Touraine, le CADIS, quelques étages plus haut, ou encore celles du Centre d'analyse et de mathématiques sociales de Marc Barbu, sans évoquer les nombreux autres fonds d'archives d'anthropologues ou d'historiens pris en charge par le service des archives de l'EHESS. Cette agrégation patrimoniale des archives, au-delà des frontières disciplinaires ou institutionnelles, c'est une chose naturelle, logique pour les archivistes. Et c'est avec bonheur que nous avons découvert chez Raymond Boudon une disposition d'esprit semblable. Car nous lui avons rendu visite chez lui, Goulven Lebrec et moi, en compagnie d'Annie Devinant, pour deux entretiens qui nous ont fort éclairés et agréablement impressionnés. C'est avec simplicité et bienveillance que Raymond Boudon a répondu à nos questions sur son itinéraire dans les institutions, de l'école normale à l'institut, en passant par l'université, ses premières enquêtes de terrain à Austricourt, sans oublier ses nombreux séjours à l'étranger. Il nous a parlé des hommes qui ont eu une grande influence sur lui. Paul Lazarsfeld, tout particulièrement, qu'il a bien connu, mais aussi Stötzel, Gurwitch, Raymond Aron, Alain Touraine et bien d'autres. Ces entretiens constituent un document d'archives orales, comme nous aimons en recueillir au moment de la collecte d'un fonds d'archives vivante. Nous y retrouverons sans doute des lettres des uns et des autres, vivants ou disparus dans ce fonds d'archives. Mais Raymond Boudon nous a dit ne pas avoir été un grand épistolier. Toutefois, les 10 cartons de correspondance que nous n'avons pas encore classés en détail nous réservent certainement des surprises. Nous en aurons sans doute parmi les 2000 feuillets que contiennent en moyenne un carton d'archives, soit environ 20 000 pages de correspondance et documents annexes les accompagnant. L'ensemble du fonds, une fois reconditionné, est constitué de 123 cartons, 93 pour Boudon, 30 pour le GEMAS. Goulven Lebrecq, ici présent, a eu pour mission d'organiser le fonds par son reconditionnement et sa description sommaire. C'est un travail qu'il a mené dans des conditions assez habituelles pour les archivistes, dans une cave peu hospitalière, conditions que précisément nous espérons voir améliorées pour les futurs archivistes dans notre futur centre d'archives adapté au traitement, à la conservation et à la communication. En attendant, Goulven a parfaitement réalisé ce travail, quelque peu ingrat, aidé par un jeune vacataire, Maximin. Il a connu alors ces moments de bonheur que les archivistes éprouvent toujours au contact de ces documents enfouis, qui parlent et témoignent de la vie d'un chercheur, de ces bribes de vie intellectuelle et institutionnelle qui seront transmises de génération en génération pour leur conservation pérenne. En attendant la construction du campus Condorcet, ces archives seront conservées, après un traitement plus détaillé, aux Archives nationales, avec lesquelles une convention cadre pour les archives de la recherche collectées par le HESS est en cours d'élaboration. C'est la raison pour laquelle la directrice des Archives nationales, Mme Agnès Magnin, empêchée, s'est fait représenter par M. Yann Potin, ici présent. Mais il nous faut toutefois, en amont, traiter ces archives de façon un peu plus détaillée pour permettre leur accessibilité rapide aux chercheurs, ainsi que le souhaite Raymond Boudon. Pierre Sen, qui vient de rejoindre le service des archives en remplacement de Goulven, parti pour d'autres missions, a modélisé les grandes catégories d'archives dans une cartographie mind map très évocatrice du contenu du fonds, en tout cas de son agencement. Après cette vue d'ensemble, il reviendra dans les cartons pour produire un instrument de recherche normalisé, ainsi qu'il se doit pour la bonne description du fonds. Il faut le dire, et cela n'a rien d'exceptionnel, Raymond Boudon n'a pas eu un souci particulier pour le classement et la conservation de ses papiers qu'il a laissés sur le lieu de production au GEMAS ou à Paris 8. Nous en avons collecté un peu chez lui aussi. Si cela n'avait tenu qu'à lui, il aurait volontiers fait un ménage plus radical, dans ses propres papiers du moins, ainsi qu'il nous l'a avoué. Mais fort heureusement, Jacqueline Lécuyer et Annie Devinant, au-delà de leur rôle d'assistante du professeur et directeur d'unité de recherche, ont joué leur rôle de préservatrice et de courroie de transmission des documents produits au cours de la longue carrière de chercheur et d'enseignant, d'auteur et de responsable de laboratoire que fut Raymond Boudon. Comme tout fonds de chercheurs, le fonds Boudon est unique et spécifique. Il n'appartient pas à l'archiviste de le définir de quelque manière que ce soit, et encore moins de proposer des pistes ou des orientations de recherche. L'archiviste fait son miel de ce premier contact, de cette primeur. Après, évidemment, celles qui ont participé au plus près à la constitution même de ces archives, ou qui ont assisté à la gestation de l'œuvre. J'ai déjà cité Jacqueline Lécuyer et Annie Devinant, mais je veux évoquer aussi la présence invisible de l'épouse de Raymond Boudon, que nous avons rencontrée. Ce n'est pas elle qui nous l'a dit, mais Raymond Boudon lui-même. Alors je ne peux m'empêcher de dire, en le citant, ce dont on ne trouvera qu'une trace très ténue dans les archives. Car il faut bien le dire, il n'y a pas tout dans les archives. C'est une illusion que de croire en leur exhaustivité. Les archives sont bien impuissantes à refléter une totalité quelconque. Mais revenons aux traces de la gestation de l'œuvre, au travail d'écriture lui-même. Je cite un extrait de l'entretien de Raymond Boudon. À la question « Quel est votre premier lecteur ou première lectrice ?» Raymond Boudon, ma femme, et après c'est Annie. Ma femme est une relectrice impitoyable. Elle est contre tous les effets de style. Elle joue toujours la sobriété. Je garde le secret sur ce que j'écris jusqu'à ce qu'elle ait regardé. Et je suis très anxieux parce qu'elle met un temps fou à lire. Elle lit uniquement le matin, aux petites heures. Elle lit par petits bouts, mais vraiment chaque mot, très attentivement. Alors, les métaphores osées, tout ça doit disparaître. Les idées pas claires, les transitions mauvaises ou qui manquent. Elle met un trait au crayon et après, elle me convoque. Elle me dit ce qui ne va pas. Elle n'écrit pas en marge parce que ça la fatigue. Elle me met un trait dans la marge sans dire ce qui ne va pas. Mais elle sait très bien ce qui ne va pas. Elle lit 20 pages par jour, pas plus. Il m'arrive quelquefois de protester. Je me dis qu'elle m'embête. Et puis, dans un deuxième temps, je me dis à la réflexion qu'elle n'a peut-être pas tort. Et en général, j'en tiens compte, dans 90% des cas. Elle est très attentive aux détails, aux mots justes, à la liaison entre les choses, etc. Et cela m'aide beaucoup. Quelquefois, on a une transition en tête et on ne l'écrit pas. Le lecteur ensuite a l'impression d'un saut. Elle fait disparaître ça en général. Les transitions sont fondamentales, autrement le lecteur décroche. Si la transition n'est pas là, et alors il faut éviter les transitions faciles. Ce n'est pas... Ça, c'est difficile. Je vous invite à lire la suite de l'entretien lorsqu'il sera à la disposition sur le site du GEMAS par les bons soins d'Alexandra Frénaud, à qui on doit la bonne organisation de cette journée et ce document qui l'accompagne et sur lequel vous retrouverez la cartographie du fond. Je vous donne la conclusion des propos de Raymond Aron en matière d'archives. À la question, quel sens cela a pour vous de léguer vos archives ? Raymond Boudon répond. Oh là, pardon. Oui, c'est parce qu'il y avait aussi. Oui, c'est la première fois que je fais de lapsus. Bon, je pensais que je le ferais parce que je l'ai. Donc, quel sens cela a pour vous de régler, de léguer vos archives ? Raymond Boudon répond. De livrer un matériau. Il n'y a peut-être rien dans ces archives, mais peut-être qu'un historien qui voudrait vraiment, il y trouvera quelque chose. Il faut que quelqu'un un jour écrive l'histoire de la sociologie de 1945 aux années 2000. Je me dis que ça peut aider. À la question que contiennent vos archives ? Écoutez, répond Raymond Boudon, je pense que ça contient du quotidien, c'est-à-dire tout ce qui fait la vie d'un professeur-chercheur, probablement des rapports de thèse, des candidatures, des lettres de recommandation, des histoires d'ordre administratif, des demandes de crédit, des choses comme ça, des choses peut-être plus originales. L'essentiel, c'est de la routine d'un chercheur, professeur, directeur de thèse et de laboratoire. Mais je ne crois pas que ce soit inintéressant, parce que pour une bonne histoire des sciences sociales, ça compte, ça aussi. Le fonds Raymond Boudon, c'est donc un fonds très divers, par son contenu et aussi par les différents supports. Il y a du papier, essentiellement, mais aussi des fichiers informatiques, quelques photos et de l'archive orale, sur bande magnétique et numérique pour nos entretiens. Contrairement à d'autres fonds de chercheurs, il y a une chose que l'on n'y trouvera pas. D'après la réponse de Raymond Boudon à ma question relative aux éventuels projets inaboutis, aux inédits, il a le sentiment, rare, d'avoir achevé tout ce qu'il a entrepris. La seule chose inaboutie, c'est un projet de l'éditeur allemand de Gruyter, proposé par Jürgen Friedrich, de publier l'œuvre complète de Raymond Boudon en 6 volumes. Raymond Boudon avait oublié cette affaire, et c'est Annie Devinant qui lui a rappelé lors de notre entretien. Il a eu cette réponse que je vous cite. Ils ont eu l'idée absurde de faire les œuvres complètes. J'aurais dû les arrêter. Ça ne m'arrive pas très souvent quand même. Mais là, j'ai péché par narcissisme. J'ai dit oui. J'aurais dû leur dire, vous faites un volume, deux peut-être, et on arrête là. Comme l'opération était immense, elle n'a pas abouti. Ainsi, l'édition de l'œuvre complète de Raymond Boudon est restée en gestation dans ses archives. Mais il y a bien plus que l'œuvre dans les archives. Il y a de multiples témoignages de la vie, celle de Raymond Boudon, celle des autres, de ceux avec qui il était en contact et qui ont laissé leurs traces dans ses archives, qui peut-être serviront encore à l'histoire des sciences sociales, autant qu'à la biographie de Raymond Boudon. À cette lecture de ses archives, Raymond Boudon ne donne aucune orientation. Ce don généreux, il le fait non pas à une institution en propre, mais à l'ensemble d'une communauté, au service de laquelle œuvrent aussi des archivistes, d'ici et d'ailleurs, pour la transmission de la mémoire.
Merci beaucoup, Brigitte. Merci beaucoup. Monsieur Artaud, vous voulez dire quelques mots ? Non ? Bon. Très bien.
Gianluca, peut-être, tu lis, avant qu'on écoute les quelques mots de Raymond Boudon, tu lis peut-être le court message d'Alain Touraine, qui aurait aimé être présent, mais ne peut pas être présent,
qui a écrit quelques mots.
Texte de M. Alain Touraine pour l'ouverture des archives du GEMAS au sein de l'École des études en sciences sociales le mercredi 21 novembre 2012. Rien ne démontre plus clairement le rôle central de l'École et de la Maison des sciences de l'homme dans la vie des sciences sociales à Paris que le rassemblement d'archives qui montre l'extrême diversité des orientations et des champs de travail qui se sont développés sur des longues périodes à l'intérieur de ce grand ensemble. Dans le cas du GEMAS, la réussite est particulièrement importante puisqu'il a été créé et animé pendant toute son existence par le chef de file incontesté de la sociologie universitaire, Raymond Boudon. Boudon, que j'ai connu dès ses débuts, a d'abord été celui qui introduisit l'œuvre et le champ de travail de Paul Lazarsfeld, et par conséquent les recherches quantitatives prolongées même par le recours aux mathématiques. Cette importance donnée à la formalisation est allée chez lui de pair avec une conception rationaliste de type économique de l'analyse des conduites humaines, ce qui l'a amené à être un des premiers à montrer l'importance des inégalités sociales et de leur transmission à l'école. Raymond Boudon a réussi à mener conjointement pendant toute sa vie des travaux de sociologie dans des domaines essentiels et une défense active, parfois polémique, de ceux qui semblaient en contradiction avec l'individualisme méthodologique qu'il avait reçu de Weber et qu'il défendait non pas comme une école particulière, mais plutôt comme la condition première d'une recherche sociologique efficace. Je suis certain que ces archives montrent l'étendue de ces relations et de son influence nationale et internationale. Lorsque, assez récemment, lui a été remis le considérable ensemble de travail et d'hommages qui constituait le festschrift que lui ont offert ses élèves et ses amis, on a pu voir l'étendue de son influence. Il faut en particulier signaler l'étendue, pour des raisons qui ne sont pas seulement professionnelles, de ses contacts avec la vie intellectuelle allemande, en une période où tous les pays européens donner l'impression de ne connaître du monde que les États-Unis. Raymond Boudon a considéré, est considéré à juste titre comme une des personnalités dominantes de la sociologie française du dernier demi-siècle. Et la richesse de son œuvre personnelle explique aussi la grande activité du GEMAS, en même temps que la réussite d'une institution qui appartenait à la fois au CNRS Paris 4 et à la Fondation Maison de Sciences de l'Homme. Je souhaite que la création par Brigitte Mazon de ce département des archives encourage les jeunes chercheurs à mieux savoir d'où ils viennent, dans quel territoire et quelles orientations intellectuelles ils cherchent à situer leurs propres travaux. Étrangement, les sciences sociales, y compris l'histoire elle-même, manquent de mémoire. Or, autant il est déplorable de résumer une discipline à des différences entre des écoles, autant il est indispensable d'acquérir une conscience des problèmes généraux d'une discipline, en particulier à travers ses choix et ses initiatives méthodologiques. Peut-être les documents de travail et de vie professionnelle permettront-ils de faire mieux communiquer entre eux des ensembles de travail qui ont parfois pu donner l'impression que la sociologie était comme la campagne toscane, comme dans le célèbre tableau de Simone Martini du Condottiere, se dirigeant tout armé d'un château vers l'autre. Il est indispensable que nous reconstruisions, même a posteriori, l'unité d'un paysage intellectuel et surtout que nous retrouvions le tracé des routes qui mènent d'un lieu à un autre dans cet univers qui est en effet un peu féodal, mais avant tout moderne et modernisateur. Alain Touraine.
Terminons cette petite séance en écoutant les mots que Raymond Boudon comptait dire avant de nous retrouver autour d'un verre.
Eh bien, je voudrais en mon nom personnel d'abord remercier les deux présidents, celui de mon université et celui de l'université qui abrite ces archives, d'avoir bien voulu venir à cette réunion. Alors, je lis donc le texte de Raymond Boudon tel qu'il est écrit, évidemment, sans le modifier. Notre réunion d'aujourd'hui... non, parce qu'il y a une erreur factuelle. qui me concerne. Notre réunion d'aujourd'hui est d'abord pour moi l'occasion de remercier le président de l'École des hautes études en sciences sociales, au nom de tous les membres du GEMAS, pour avoir accordé sa généreuse hospitalité aux archives de cette équipe de recherche, archives inaugurées aujourd'hui par le dépôt du chercheur du GEMAS que je suis. Cette hospitalité témoigne de la complémentarité des institutions majeures pour les sciences sociales françaises, que sont l'École des hautes études en sciences sociales, l'Université Paris-Sorbonne, le CNRS et la Maison des sciences de l'Homme. L'hospitalité de l'École des hautes études en sciences sociales me touche d'autant plus, non seulement parce que je n'ai jamais appartenu à cette prestigieuse maison, mais que je suis passé à côté d'une occasion en or qui m'a été offerte d'y être admis. Comme cet épisode n'a laissé aucune trace dans mes archives, j'y glisserai un petit complément en l'évoquant d'un mot. Sous la présidence de François Furet lui-même et Emmanuel Leroy de la Durie m'avaient proposé, au cours d'un déjeuner amical, d'émigrer de l'université vers l'École des hautes études en sciences sociales. Leur souci commun était, pour utiliser une formulation aussi neutre que possible, d'ouvrir l'éventail de la sociologie dans la maison EHESS, éventail qui, à cette époque, leur paraissait un peu fermé. Je me suis naturellement senti flatté par cette marque d'estime de la part de deux historiens que j'admire profondément, mais j'ai décliné leur invitation sans le moindre état d'âme. D'abord parce que je ne voulais pas abandonner mes amis de l'université, ensuite parce que dans les années où les sciences sociales étaient traversées par des conflits intellectuels stériles, l'université de Paris-Sorbonne, qui pouvait s'enorgueillir de compter nombre d'historiens, de géographes, de philosophes, de linguistes de tout premier plan, m'apparaissait de surcroît comme une thébaïde que je n'avais aucune envie de quitter. Je vois donc le dépôt d'archives qui nous réunit aujourd'hui comme une seconde occasion pour moi, réussie cette fois, de nouer une relation avec l'UHESS. Mais notre réunion d'aujourd'hui me va droit au cœur pour d'autres raisons encore. Elle me fournit d'abord l'occasion de dire le plaisir que j'ai eu, grâce à ce dépôt d'archives, de faire la connaissance de Brigitte Mazon et de Goulven Lebrecq. Leur compétence en matière d'archivage a fortement impressionné le néophyte en la matière que je suis. Bien sûr, notre petite fête d'aujourd'hui me vaut aussi la joie de retrouver mes amis, et particulièrement mes amis du groupe d'études des méthodes de l'analyse sociologique de la Sorbonne, du GEMAS, après une interruption prolongée. Cette équipe de recherche a commencé modestement, ne réunissant au départ qu'une poignée de chercheurs. Son existence est due, pour utiliser une notion familière aux sciences sociales, à un processus de destruction créatrice. Je veux dire qu'elle a été l'effet indirect d'une incompétence, et en tout cas d'un échec patent de ma part. Ayant été en 1968 appelé par la direction générale du CNRS à succéder à Jean Stoetzel à la tête du Centre d'études sociologiques, j'avais en effet acquis dès les premiers mois de mon mandat, à tort ou à raison, la conviction que je ne pourrais guère y laisser de traces. Le laboratoire me parut tout simplement trop grand et trop hétérogène pour qu'une vision d'avenir puisse y être facilement définie. J'ai donc démissionné de ma fonction de directeur du Centre d'études sociologiques au bout de quelques années avec l'assentiment du CNRS. Pierre Baucher, alors directeur pour les sciences humaines et sciences sociales, s'était en effet généreusement refusé à inscrire mon échec à mon débit. Grâce à lui, et du côté de la Maison des sciences de l'homme, grâce à Fernand Braudel et à Clemens Heller, j'ai donc pu entraîner avec moi quelques chercheurs du Centre d'études sociologiques pour former une équipe université, CNRS, le groupe d'études des méthodes de l'analyse sociologique. Elle se vit accorder le privilège d'être logée dans l'immeuble commun à l'École des hautes études en sciences sociales et à la Maison des sciences de l'homme, au 54 boulevard Raspail. Elle y a résidé depuis sa création jusqu'à la phase de désamiantage de l'immeuble. L'efficacité des chercheurs issus du CNRS qui m'ont succédé à la direction de l'équipe, Mohamed Cherkaoui puis Olivier Galland, a fait que cette équipe a pris avec le temps une extension remarquable. Évaluée positivement par le CNRS et généralement bien considérée par la communauté scientifique, elle a tissé un réseau important de relations nationales et internationales. Elle doit ce succès notamment au fait qu'un principe y a été appliqué avec constance, fonctionner comme une coopérative reconnaissant aux chercheurs une liberté totale de formulation de leurs projets, sous la seule condition de respecter les règles de l'esprit scientifique, je veux dire les règles communes à toutes les disciplines scientifiques. Car dans les années 1970-1980, était apparue une série de manifestes influents qui devaient brouiller l'image de la sociologie pour la vingtaine d'années à venir. Les uns revendiquaient pour la sociologie un « entre guillemets, régime de scientificité particulariste », les autres la décrivaient comme « entre guillemets, une troisième culture » qui viendrait se superposer à l'art et à la science. D'autres encore la définissaient comme dotée du pouvoir mystérieux de poser sur les sociétés un mystérieux regard qui lui serait propre. Pour parler franc, cela nous a valu surtout l'installation d'une sociologie blabla. Au GEMAS, on a préféré ignorer ces idées un peu confuses et suivre les pères fondateurs pour qui la sociologie est tout simplement une discipline scientifique parmi d'autres. L'équipe du GEMAS s'est trouvée encore enrichie dans les dernières années par sa fusion avec le Centre d'études sociologiques de la Sorbonne, opéré sous l'égide de Pierre de Melenard, le directeur de l'unité de sociologie de Paris 4 Sorbonne, aujourd'hui en outre vice-président chargé de la recherche dans cette université, et d'Olivier Galland. C'est à la suite de cette fusion que l'acronyme du GEMAS a hérité d'un S final supplémentaire, symbolisant et gravant dans le marbre sa relation avec l'Université de Paris-Sorbonne. Mais les membres du GEMAS ne sont pas tous CNRS ou Sorbonne, car l'équipe a voulu s'attacher nombre de chercheurs associés, français et étrangers. On mesure immédiatement la richesse et la diversité des productions de cette équipe de recherche en consultant les nouvelles du GEMAS, une lettre périodique qui doit sa qualité à la compétence et au talent d'Alexandra Frénaud. Aujourd'hui, la réputation du GEMAS a atteint non seulement la presse professionnelle, mais la grande presse elle-même, de grands quotidiens et hebdomadaires nationaux et même internationaux, Le Monde, Le Figaro, L'Express, le Times Literary Supplement et d'autres encore, ont en effet choisi en plusieurs occasions de mettre en lumière certains des ouvrages qui en sont issus. À cet égard, le GEMAS doit beaucoup à Peter Hamilton. Il a contribué à l'audience du GEMAS en créant à Oxford, auprès de la Bardwell Press, une collection alimentée par les travaux de l'équipe en langue anglaise, collection dont le catalogue inclut d'ores et déjà un nombre important de titres. Je relèverai seulement avec un sourire que parmi les grands quotidiens nationaux, seul Libé paraît, à ma connaissance, avoir consciencieusement ignoré jusqu'à présent l'existence du GEMAS. Je suis donc très heureux que l'historien de demain ait la possibilité de disposer d'archives lui permettant peut-être d'approfondir une facette parmi d'autres, mais une facette importante, je le crois du moins, de l'histoire des sciences sociales françaises des dernières années. Permettez-moi de conclure par un aveu. Ma reconnaissance à l'endroit de l'École des hautes études en sciences sociales est d'autant plus grande que le dépôt qui nous réunit est, en partie, pour utiliser une autre catégorie familière aux sciences sociales, un effet inattendu. À l'origine, Olivier Galland m'avait en effet adressé un courriel me proposant d'archiver la montagne de papiers accumulés au cours de l'histoire du GEMAS en marge de mes responsabilités institutionnelles, de mes travaux personnels et de mes différentes activités professionnelles. Au 54 boulevard Raspail, à la Maison des sciences de l'homme, ces papiers encombraient les armoires du GEMAS. Au 28 rue Serpente, à la Maison de la recherche de l'Université de Paris-Sorbonne, ils obscurcissaient la fenêtre du bureau d'un y-devinant. La secrétaire générale de la vénérable et prestigieuse année sociologique, revue brillamment conduite par Bernard Vallade jusqu'à hier encore, notre réunion me fournit l'occasion de remercier Annie pour avoir accepté d'exercer sa censure bienveillante sur plusieurs de mes manuscrits. Les papiers en question envahissaient aussi, bien sûr, mes rayonnages personnels de l'avenue Trudaine. Aussi dois-je confesser, à ma grande honte, que dans un premier temps, j'ai vu dans l'invitation d'Olivier Galland l'occasion, si vous me permettez cette expression un peu cavalière, de faire le ménage et, accessoirement, de dépoussiérer mes étagères pour la plus grande satisfaction de ma femme. C'est un peu plus tard seulement que je devais découvrir, comprendre et, bien sûr, apprécier, à sa juste valeur, le fait que ce dépôt allait constituer une pièce parmi d'autres d'un imposant projet de documentation pour l'histoire des sciences sociales mis en place par l'École des hautes études en sciences sociales. Longue vie donc à ce projet d'envergure et à tous un grand merci.